sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Amen. Amen. Voilà, c'est un texte que peut-être bon nombre d'entre vous, vous connaissez. C'est un texte qui est prophétique. Vous l'avez vu avec moi et vous le connaissez. On n'a pas continué, peut-être qu'on le fera au fur et à mesure du message, mais après il est parlé d'un enfant qui est né, un enfant nous est né, et bien entendu dans ce texte on reconnaît la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cet après-midi j'aimerais qu'on puisse un petit peu s'attarder, si vous le voulez bien, plus particulièrement sur le verset 3 du chapitre 9, puisque c'est ce verset qui a vraiment frappé mon cœur, lorsqu'il est dit « car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian ». Il y a là, et c'est le prophète Ésaïe qui s'exprime, parce que l'Esprit Saint, parce qu'il y avait là un commandement poussé par le Saint-Esprit et poussé aussi à obéir au Seigneur, Ésaïe va donner ce message. Et il y a là, et c'est évident, et on le saisit bien, on le voit bien, que dans le texte qu'on a lu, les versets, les quelques versets que nous avons lus, il y a comme un avant et un après. Il y a comme l'état d'une situation qui est là, qui d'ailleurs n'est pas une situation confortable, qui d'ailleurs est une situation un peu compliquée. Il y a une situation où il semblerait qu'il y ait des ténèbres, il semblerait qu'il y ait l'opprobre, la honte, il semblerait qu'il y ait de grandes difficultés. Et le prophète Ésaïe nous dit, ben voilà, c'est pas une situation qui est appelée à rester. Ce n'est pas une situation dans laquelle les choses vont être sclérosées, vont s'arrêter, vont stagner, parce que si vous avez connu ces événements, ces choses, après il y a autre chose, il y a des bénédictions. Et on le voit, c'est ce qui s'exprime, et il va nous parler du joug. Et j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur ce verset 3 parce que, je vous le dis, c'est vraiment ce verset qui est revenu sans cesse sur mon cœur. Alors, je ne peux pas faire autrement que d'en parler cet après-midi. Lorsqu'il est parlé du joug, voyez-vous, il y a plusieurs traductions pour ce mot, pour ce terme. Et on peut très bien, et vraiment, vous allez vraiment voir là où je veux en venir, parce qu'on pourrait traduire ce mot par « abuser ». Par se moquer, par outrager, par action coupable. Et ce mot-là, il signifie à la fois tous ces termes. Et on pourrait dire cet après-midi, peut-être, que s'il y a des personnes pour lesquelles il y a des moqueries qui pèsent sur leur vie, s'il y a des personnes sur lesquelles il y a, par exemple, des outrages, des actions coupables qui sont là, qui pèsent sur leur vie, s'il y a là des personnes qui ont été abusées dans leur vie, et ces abus pèsent sur leur vie, leur existence, il y a un moment donné où ce joug va être brisé. Il y a un moment donné, c'est ce que vraiment le Seigneur veut nous dire et nous rappeler cet après-midi, que les situations ne sont pas appelées à rester fermes, à rester fixes, les situations sont appelées à évoluer, bien entendu, avec notre Dieu, avec Jésus-Christ, si nous nous confions en lui, si nous décidons de lui donner les rênes de notre vie. Il y a le bâton, il y a la verge, de celui qui est opprimé. Et on pourrait traduire cette phrase, ce texte, ce verset par « il y a le sceptre de celui qui opprime ». Il y a le sceptre de celui qui vous serre fort, qui vous empêche de respirer. Il y a le sceptre de celui qui vous tyrannise. C'est ce que veut dire opprimer. Il y a le sceptre de celui qui était contre vous, qui venait pour vous empêcher d'avoir part à cette vie pleinement en Jésus-Christ. Et ce sceptre-là aussi va être brisé. Parce que, voyez-vous, dans ce verset, il fait mention à une journée particulière. Et c'est là où un petit peu je voulais en venir avec vous, parce que ce verset nous fait mention de cette journée de Madian, la victoire, une journée de Madian. Et cette journée, voyez-vous, et on va le voir ensemble, nous parle particulièrement, parce que cette journée avait vraiment interpellé, avait marqué, mais marqué en profondeur le peuple d'Israël, avait marqué l'existence de tous les chrétiens, on pourrait dire. Cette journée, ça avait été une journée telle que peut-être des dizaines d'années plus tard, des centaines d'années plus tard, lorsque Ésaïe va dire, voilà ce qui se passait peut-être dans votre vie, voilà peut-être les situations qu'il y avait dans votre existence, dans votre vie, mais ces situations ne sont pas appelées à rester, parce que ça va être comme à la journée de Madian, tout cela va être brisé, tout cela va disparaître, tout cela va complètement s'envoler face à la grandeur et à la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut lire ensemble, si vous le voulez bien, c'est dans le livre des Juges. Peut-être certains, vous me voyez arriver. On va prendre un texte, Juges chapitre 6. On va prendre un texte qui est bien connu, que vous avez sûrement beaucoup entendu, qui a été souvent prêché également. Mais ce n'est pas important. Plaise à Dieu que cet après-midi, nous puissions le considérer d'une manière un peu différente. Juges chapitre 6, on va lire les 14 premiers versets. Il est écrit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. » Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habiterez, mais vous n'avez point écouté ma voix. L'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas, de la maison de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Amen. » Amen. Voilà, on a fait une lecture un petit peu longue, mais c'était nécessaire. On connaît tous ce texte, ce passage, et j'aimerais vraiment qu'on puisse ensemble garder en arrière-fond, dans un coin de notre texte, ce que le prophète Ésaïe a dit sur le joug, le bâton, la verge, le sceptre. Tous ces éléments qui opprimaient son peuple vont être brisés. Israël s'est détourné de ses voies, des voies que Dieu lui avait données, du cadre dans lequel il devait prospérer, dans lequel il devait évoluer. Et Madian est là, et Madian opprime le peuple d'Israël. Et il y a un élément qui m'a sauté aux yeux dans ce texte, qui lorsque nous avons lu cela, Israël est obligé de fuir. Israël ne peut pas tenir face à Madian. Madian, ça signifie lutte, dispute. Et il y a des événements dans notre vie, on le comprend facilement, qui sont difficiles. Il y a des événements qui sont là, qui sont compliqués. Il y a des luttes dans notre vie, c'est évident. Il y aura toujours des luttes. Il y aura toujours l'ennemi de nos âmes qui va essayer de nous disputer, qui va essayer de prendre un petit peu de territoire de ce qu'on a donné à notre Dieu, de ce qu'on a donné à notre Seigneur. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est devons-nous fuir ou devons-nous rester fermes face à notre engagement? Chacun d'entre nous, nous pouvons y répondre cet après-midi. Le peuple d'Israël, lui, a décidé de fuir. Il est allé se cacher, il est allé se réfugier. Et ce que j'ai trouvé dommage, vraiment, c'est que la Bible nous dit, voilà, il est allé se réfugier dans les ravins, dans les cavernes, dans les montagnes, dans les rochers fortifiés. Mais la Bible ne dit pas de suite, en tout cas, que Israël est allé trouver refuge auprès de son Dieu. La Bible ne nous dit pas que Israël, lorsque Madian était là, qui les opprimait, la Bible ne nous dit pas que Israël a de suite crié à Dieu, s'est de suite réfugié en son Dieu, a de suite voulu chercher dans son Dieu la solution, a de suite voulu voir, venir à l'église pour revenir, par exemple, aux réunions de prière. On pourrait vraiment se tirer enseignement de ce texte par rapport à nos vies. Comment est-ce qu'on peut réagir? Comment est-ce qu'on réagit face aux événements de la vie, face aux disputes, comme on en a parlé? Est-ce que nous devons fuir ou est-ce que nous devons tenir ferme et venir nous réfugier dans le creux de la main de notre roi, dans le creux de la main de Jésus-Christ, dans le creux de la main de celui qui a dit qu'il serait tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'il va revenir nous chercher, parce que c'est une promesse de Jésus-Christ? Et comment est-ce qu'on peut considérer ces choses? Et ça doit nous questionner. En tout cas, le peuple d'Israël, lui, n'a pas du tout crié à Dieu et n'a pas de suite, en tout cas, crié à Dieu et n'a pas recherché le secours de son Dieu. Et il y a ce texte avec lequel nous pouvons vraiment faire un parallèle qui est dans le Nouveau Testament et pour faire peut-être aussi le lien avec ce qui a été dit hier soir à la jeunesse, il est dit « car vous êtes morts et votre vie est cachée dans les rochers ». Est caché dans les cavernes, et votre vie est cachée dans les ravins. Je ne crois pas qu'il ait écrit ça. Il est écrit « car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Votre vie est cachée en Christ. Et mon frère, ma sœur, toi qui es là cet après-midi, c'est peut-être un peu vague, un peu flou, mais c'est une réalité tellement bénissante pour chacun d'entre nous. De savoir que lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'il y a des difficultés, pour faire le lien avec le texte d'Ésaïe, on pourrait dire lorsque il semblerait que les ténèbres viennent, lorsqu'il semblerait qu'il y ait un joug sur notre vie qui est là pesant, n'oublions pas que nous sommes cachés en Christ. N'oublions pas que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. N'oublions pas que nous avons l'autorité de notre Dieu. N'oublions pas que nous avons accès à sa puissance. Nous avons, et surtout par-dessus tout, accès à la victoire qu'il a accomplie sur la croix. Nous avons accès à cette victoire, et cela tous les jours de notre vie. Madian avait cette main puissante contre Israël. Et ce qui est mentionné dans la parole de Dieu, et c'est vraiment intéressant et ça nous parle, parce qu'il est dit que lorsque Israël semait, lorsqu'Israël essayait de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir subvenir à leurs besoins, lorsqu'Israël essayait de pouvoir avoir des vivres, lorsqu'il espérait pouvoir voir des choses pousser, Madian venait et détruisait toutes les productions. Madian venait et détruisait toutes les productions. Il ne laissait ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et je me suis dit, mais voilà, Voilà, et c'est peut-être le cas d'une personne cet après-midi, voilà la persécution qu'il y a, et voilà la persécution de Madian contre l'Église de Jésus-Christ. Voilà la persécution qu'il y a peut-être dans ta vie, et voilà cette persécution qu'il y aura toujours dans notre vie de chrétien, parce qu'il y aura toujours Madian qui sera là. Il y aura toujours Madian qui essaiera de venir pour détruire les semences, pour détruire la prière des chrétiens, pour détruire le témoignage des chrétiens, pour détruire ce que chacun d'entre nous, nous essayons de semer, pour détruire lorsque nous allons parler à une personne qui n'est pas convertie, une personne qui est là dans notre entourage, au travail, dans la famille, lorsqu'on essaye de témoigner, Madian essaiera toujours de venir pour enlever cette semence, pour détruire la production, lorsqu'il semblerait enfin qu'il y a une petite pousse qui commence à sortir de la terre, lorsqu'il semblerait qu'il y ait peut-être un peu d'espoir, mon frère, ma sœur, dans ta vie, lorsqu'il semblerait qu'il y ait peut-être une pousse verte qui est là, qui te donne de l'espoir, Madian essaiera toujours de venir pour arracher cela. C'est là le combat, c'est là le combat perpétuel, oui, que nous aurons à faire. Mais encore une fois, Dieu ne nous appelle pas à fuir face à Madian. Dieu, et il n'est pas écrit que tout au long de notre vie, le joug sera toujours là et va demeurer. Hein, vous vous souvenez avec moi ce que nous avons lu dans Ésaïe, vous le gardez vraiment dans un coin de votre tête, parce que ce bâton qui frappe le dos, ce bâton qui essaye de déchirer le dos, ce bâton qui essaye de nous mettre à mal ne sera pas toujours là. Il n'est pas dit que Madian va être victorieux, il n'est pas dit que Madian a remporté toutes les victoires. Il est dit en tout cas pendant un temps, lorsque le peuple d'Israël s'est détourné, lorsqu'il y a eu un moment peut-être de faiblesse dans ta vie, lorsqu'il y a eu peut-être un moment où tu as dit « je vais un peu lever le pied » quant à la vie de l'Église, quant à la prière, quant à la lecture de la parole de Dieu, peut-être qu'il y a des événements aussi familiaux, des événements au niveau professionnel qui ont fait que ça a été et c'est peut-être un peu compliqué. Il n'est pas dit que dans ces cas-là, dans cette circonstance, Madian sera toujours vainqueur. S'ils ont levé les bœufs, les brebis, on pourrait aussi comprendre ce que Madian a réussi à faire contre Israël. On pourrait le saisir comme ça, c'est qu'ils ont levé ce qui était nécessaire pour offrir des sacrifices aux dieux. Ce qui était nécessaire à l'époque, une partie en tout cas, mais il semblerait que le peuple d'Israël n'avait plus moyen d'offrir leur sacrifice à leur Dieu. Il y avait comme leur louange, leur action de grâce qui était touchée dans leur vie. Il y avait peut-être ce qu'ils désiraient reprendre. Ils étaient dans l'incapacité parce que Madian, vous savez, Madian est très intelligent. Il sait là où attaquer et quand attaquer. Il savait qu'en prenant les semences, le peuple allait se décourager. Il savait que s'il enlevait toutes les bœufs, les brebis, Israël aurait du mal à pouvoir offrir des actions de grâce et des sacrifices à son Dieu. Il savait que la louange, la communion avec Dieu allait diminuer. C'est peut-être un tableau un peu noir, mais vraiment, on garde en tête, parce que le joug va être brisé. Le joug va être brisé. Et s'il y a eu un moment de ténèbres, s'il y a eu un moment où la honte était là, il n'en sera pas toujours ainsi. Il n'en sera pas toujours ainsi. Pour vraiment saisir l'œuvre de Madian, on pourrait lire ensemble, si vous le voulez bien, Psaume 83. On va lire à partir du verset premier. Le Psaume 83 nous dit: Cantique, psaume d'Asaph, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. On va ensemble au verset 12. On va, à partir du, même du verset 10, on peut lire, « Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits en Endor et ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb et tous leurs princes comme Zebag de Tsunmana. Car ils disent, et c'est le verset 13 qui est là, qui est important, car ils disent, « Emparons-nous des demeures de Dieu. » Et c'est là ce que Madian voulait faire. Et c'est là ce que vous comprenez bien, que le peuple d'Israël était sous l'opprobre, sous la honte, dans les ténèbres. Le peuple d'Israël était sous un joug pesant. Le peuple d'Israël, à un moment donné, ils en avaient marre de se réfugier dans des cavernes, ils en avaient marre de se réfugier vers des demeures d'hommes, vers des solutions humaines. Et à un moment donné, ils ont compris qu'il fallait lever la tête. Ils ont compris qu'il fallait crier vers leur Dieu. Ils ont compris qu'ils ne voulaient pas que Madian puisse prendre, s'emparer des demeures de Dieu. Ils ne voulaient pas que Madian et d'autres traductions pour le traduisent comme ça. Emparons-nous du sanctuaire de Dieu comme de notre héritage. Prenons possession des habitations de Dieu. Prenons possession des habitations de Dieu. Et lorsqu'on traduit vraiment d'une manière littérale les demeures de Dieu, demeure, ça signifie les pâturages, les prairies. Ça signifie la maison du berger. En d'autres termes, Madian voulait qu'une seule chose, c'était de détruire l'Église. Il voulait attaquer les chrétiens, il voulait attaquer les chrétiens, attaquer les pasteurs. Madian n'avait que cet objectif-là, prendre les sanctuaires de Dieu, venir blasphémer le sanctuaire de Dieu. Et comme on le sait, comme il nous a été rappelé ce matin, et comme on a, pour ceux qui sont nés de nouveau, on a cet éclairage spirituel, on voit qu'aujourd'hui, nous vivons dans ce monde-là où le bien n'est plus bien, n'est plus appelé bien. Il y a comme une montée de l'iniquité, tout se mélange, où l'Église va être toujours attaquée. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous réagir? Est-ce que nous allons laisser Madian venir s'emparer des sanctuaires de Dieu pour venir blasphémer? Israël a alors crié à Dieu. Et c'est là ce qui va faire toute la différence. C'est là ce qui va complètement bouleverser son existence, sa vie. Et c'est ce jour de victoire de Madian qui va rester marqué dans l'esprit du peuple d'Israël. Il y a eu des victoires et on a commencé la réunion en chantant « Compte les bienfaits de Dieu ». Compte les bienfaits de Dieu. Et quelquefois, et Esaïe aurait pu le mettre à la suite du verset 3, parce que le joug va être brisé, le bâton va être brisé, cette verge va être brisée, comme à la journée de Madian, comptez les bienfaits de Dieu. N'oubliez pas de vous rappeler combien Dieu a été fidèle avec vous. N'oubliez pas de vous rappeler que peut-être il y a des épisodes dans votre vie où il semblerait que Madian prend le dessus. Peut-être qu'il y a des moments dans votre vie où il semblerait que les ténèbres sont là, mais ce n'est pas appelé à durer, à perdurer. Ce qui est appelé à durer, à perdurer, c'est la victoire du peuple d'Israël sur Madian. Et c'est comme ça qu'il faut saisir le verset dans Ésaïe. C'est comme ça qu'il faut le saisir. J'aimerais juste peut-être, ça va, j'ai encore un petit peu de temps, m'attarder sur les réponses que Gédéon va faire. Parce que vous savez, on connaît tous ce passage, hein, on l'a lu, relu, mais j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir en reparler cet après-midi, parce que lorsque la direction du Seigneur a été claire, voilà, maintenant c'est l'heure, c'est le moment. C'est le moment où vous allez pouvoir battre Madian. C'est le moment où vous allez avoir la victoire. Et Gédéon va être sur un autre mode de pensée qui est complètement différent. Gédéon va pas être à l'opposé, mais presque. Parce que alors que l'ange de l'Éternel vient pour lui parler de victoire, alors que l'ange de l'Éternel vient pour lui dire, voilà, peut-être que tu te sens faible, Et comme on l'a chanté aussi, hein, peut-être que tu es là, tu te sens petit, mais c'est, ce que tu ressens, ce n'est pas important, parce que encore une fois, celui qui est en nous, il est plus fort que tout le reste. Celui qui est en nous, Jésus-Christ, la victoire qu'il a accomplie sur la croix, c'est une victoire qui s'étend dans les moindres détails de notre vie. Et s'il y a des situations qui sont là, et que Jésus-Christ nous donne une promesse, si peut-être mon frère, ma sœur, toi qui es là cet après-midi, il y a comme Madian dans ta vie qui essaye d'œuvrer, qui essaye de remporter des victoires, qui essaye de venir prendre tes semences, qui essaye de venir prendre le sanctuaire de ta vie, et que Jésus-Christ te donne des promesses en te disant « mais voilà, je vais te sortir, je vais te donner la victoire ». Est-ce qu'on peut répondre comme Gédéon en disant « mais Seigneur, pourquoi tout ça s'est arrivé? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ?» Le pourquoi, vous savez, il est difficile des fois. Des fois, c'est vrai qu'on aimerait bien dire « Seigneur, mais pourquoi cette situation ? Seigneur, pourquoi là, c'est tellement compliqué dans ma vie ? Seigneur, pourquoi là, mon enfant, il te suit pas, Seigneur ? Seigneur, pourquoi celui que j'aime, celui que qui est dans mon affection, pourquoi est-ce qu'il est malade ? Seigneur, pourquoi est-ce que là, il y a tellement de pourquoi ? Il y a tellement de pourquoi qui sont dans notre cœur. Mais Dieu ne nous appelle pas à rester sur les pourquoi. Dieu ne nous appelle pas à rester figé, parce que c'est ce que Gédéon exprime un petit peu. Parce que autour de lui, le contexte, c'est ça, c'est que Madian opprime le peuple. C'est que lui, il est là, et dans son cœur, il repasse ces choses. Il dit, mais voilà, je suis petit, voilà, on est appelé à ce que les choses demeurent comme ceci, comme cela, c'est terrible. Et lorsqu'il a une parole de délivrance, lorsqu'il a une parole de bénédiction, il est en déphasage avec le roi des rois. Et nous, quelquefois, on risque d'être en déphasage avec le roi des rois. On risque de passer à côté des bénédictions, parce que alors que Jésus-Christ nous tend une main en disant, voilà, la victoire est là, la délivrance est là, quelquefois, On bloque les situations, on bloque les bénédictions de Dieu en disant « Mais pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, je ne comprends pas ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi est-ce que dans ma vie, il y a eu ceci ou cela ?» Et Dieu ne nous appelle pas à rester dans ça. Dieu nous appelle à vraiment lever la tête. Dieu nous appelle à nous saisir pleinement. Hein, on fait allusion pour faire le lien avec la Pâque, peut-être, bien que nous, et j'aime le dire, nous, dans notre vie, on fête la Pâque tous les jours. On fête la résurrection tous les jours, on fête la croix tous les jours, parce que c'est notre manière d'exister, c'est notre respiration, c'est la respiration de notre âme. Mais de la même manière que Jésus-Christ nous est passé, le sang de l'agneau nous a permis de passer outre la condamnation. Il y a un moment dans notre vie où on est appelé également à passer outre les difficultés, à passer par-dessus pour continuer notre chemin. Et c'est ce que vraiment Dieu voulait faire comprendre à son peuple, et c'est ce que nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre. Gédéon va dire une autre phrase, et c'est quelque chose aussi que on entend souvent, mais « Ah Seigneur, oui, tu me parles de victoire, c'est bien, tu me parles de délivrance, tu me dis d'aller conquérir Madian, tu me dis que tu me donnes la victoire, mais où sont tous ces prodiges ?» Gédéon ne se rend même pas compte qu'il est en train de vivre un prodige. Gédéon ne se rend même pas compte que l'instant qu'il vit, c'est un instant de prodige. C'est un instant de surnaturel. Vous savez, je peux parler de la sorte, parce que dans ma vie, j'ai été bloqué par le passé. Hein? Il y a quelquefois des choses, des événements, un parcours de vie qui nous font vivre des situations, des événements, des choses tellement douloureuses. Et quelquefois, on reste sur le passé, on reste sur ce qu'on a vécu, on reste sur des expériences passées, alors que Dieu nous appelle à une seule chose, c'est d'oublier ce qui a été en arrière, de ne pas tourner la tête, mais de continuer en avant, de marcher, alors que Dieu nous appelle à prendre la victoire, alors que Dieu nous appelle à une vie de surnaturel, à une vie de plénitude dans son Esprit Saint, à une vie de paix, de joie et d'espérance, alors que Dieu nous appelle sur ce chemin, ce projet qu'il a pour nous individuellement, quelquefois on reste bloqué et on ne voit pas que les situations que Dieu veut nous amener à prendre la victoire. On ne peut pas tout lire et je vous invite à le lire peut-être si vous avez peut-être oublié le contexte. En tout cas, c'est dans le Juges chapitre 7 qui est relaté la victoire du peuple d'Israël sur Madian. On ne peut pas le lire, bien entendu. Mais ce qui est frappant vraiment dans cette victoire, c'est que ça a été la victoire de Dieu. Ça a été la victoire de Dieu. Et vous savez, Dieu avait vu le nombre du peuple d'Israël qui allait au combat. Il a fait diminuer l'armée, juste pour remettre dans le contexte. Et Gédéon va avec 300 hommes. Et c'est Dieu lui-même qui va apporter la confusion au peuple de Madian. Il va y avoir la victoire de Dieu. Et cette victoire, et j'insiste, et je terminerai, si vous le voulez bien, en revenant dans Ésaïe 9. Parce que cette victoire-là, ça a été une victoire improbable. Ça a été une victoire si on avait fait un sondage, vous savez, les Français, on aime bien les sondages. Si on avait fait un sondage à l'époque du peuple d'Israël et qu'on serait allé voir les familles en disant, voilà, est-ce que vous pensez un jour avoir la victoire sur Madian? Je ne pense pas qu'on aurait eu un grand pourcentage. Je ne pense pas vraiment que la plupart auraient dit, si, oui, on va avoir la victoire. Cette victoire a été improbable. Ce que Dieu est capable de faire est improbable. Ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, c'est des choses improbables, impossibles. C'est des choses surnaturelles. C'est des victoires surnaturelles. C'est des victoires qui nous dépassent. C'est des victoires qui transcendent le temps, qui transcendent la raison humaine, qui va au-delà de tout ça. Et la plus belle des victoires, et c'est là où veut nous amener ce chapitre 9 d'Ésaïe, c'est la victoire de Jésus. Et vraiment, on revient, parce que Jésus-Christ, c'est la base, c'est le centre. Le sacrifice de la croix, c'est le centre et c'est la base de Jésus-Christ et de son œuvre et de notre vie. Parce que cette victoire qu'il a accomplie, c'est une victoire que nous aussi, on est appelés à vivre jour après jour. Parce que c'est dans ces meurtrissures que nous avons la guérison, que nous avons les bienfaits de Dieu, que nous avons l'épanouissement de notre vie. C'est dans son sacrifice, c'est dans ses mains percées, son côté percé, dans son sang qui a coulé, que nous avons la victoire. Et c'est par ce sang que le joug peut être brisé. C'est par son sang que le joug peut être brisé. On pourrait peut-être le relire parce que il est écrit, et je vais terminer, car le joug qui pesait, on pourrait dire le joug qui pèse sur toi dans ta vie, Les choses qui sont lourdes pour toi. Un joug, vous savez, c'est cette pièce qu'on mettait sur les bœufs pour traîner, pour tirer, et ce n'était pas quelque chose qui était nécessairement léger. Mais ce joug qui était là, ce qui pèse dans ta vie, va être brisé, et peut être brisé par la venue de notre Sauveur, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, par la venue de celui qui est écrit, voilà, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et cette paix, il n'a pas cessé de la donner, et aujourd'hui encore, il ne veut pas cesser de la donner. C'est une paix qui est disponible pour chacun d'entre nous. C'est une victoire qui est disponible pour chacun d'entre nous. Mettons notre vie en règle, mon frère, ma sœur. Toi qui es là dans ce lieu, je ne vous connais pas. Mettons notre vie en règle. S'il y a des événements qui ont fait que Madian a essayé de venir, demande pardon, crie à Dieu et il va te répondre. Parce que cette paix est encore disponible pour chacun d'entre nous. On peut prier, si vous le voulez bien, le Seigneur un instant. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu es vivant, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. Et cette victoire, Seigneur, elle est pour nous aussi. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés le premier. Ton amour est parfait. Ton pardon est parfait. Tout en toi est parfait. Et je te bénis pour cela. Seigneur, cet après-midi, je te prie. Seigneur, pour mon frère, ma sœur, Seigneur, peut-être un bien-aimé qui est là dans ce lieu, qui s'est vu peut-être prendre son sanctuaire par Madian, qui s'est vu peut-être prendre sa semence par Madian, qui porte un joug qui est là pesant dans sa vie, qui est peut-être là et qui reçoit peut-être les coups de bâton de la vie, qui est là peut-être par quelqu'un qui l'opprime, je te prie, pour que cet après-midi, ça soit une après-midi de victoire, une après-midi où tu brises tout cela. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as accompli à Madian et bien plus encore de ce que tu as accompli à la croix, Jésus-Christ. Et cette victoire, tu nous la donnes, Seigneur, cet après-midi. Nous voulons nous souvenir de tous tes bienfaits, des bénédictions que tu nous as déjà données. Et nous sommes confiants, Seigneur, pour l'avenir, pour demain, pour après-demain, parce que tu nous as fait cette promesse que tu serais avec nous tous les jours. Merci parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Et ce que tu as fait, Seigneur, tu peux encore l'accomplir, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.